bienvenue pour cette table ronde sur donc la science-fiction est-elle l'héritière des Lumières. Donc je crois que ce sujet est un sujet qui plaisait beaucoup à Hugo Bellagamba et c'est une des raisons pour laquelle il a choisi donc ce sujet. Donc là nous allons nous situer un petit peu dans une perspective, je dirais, critique et historique, et on va essayer de poser un certain nombre de questions donc par rapport au XVIIIe siècle. Voilà, alors pour cette table ronde, nous avons donc un certain nombre d'invités. Déborah Harkness, donc je vais commencer par les dames. Donc Déborah Harkness est une écrivaine américaine. Elle est professeure à l'Université de Californie du Sud. Elle est spécialiste, et je pense que c'est ça qui va nous intéresser, de l'histoire des sciences et de la magie en Europe du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Et elle a publié deux essais très remarqués avant de se lancer dans l'écriture de romans. Elle tient également un blog sur le vin qui a été plusieurs fois primé. Et elle a écrit également Le nœud de la sorcière ainsi que Le livre perdu des sortilèges qui est un best-seller international salué par la critique. Alors Déborah Harkness parlera donc en anglais, donc vous avez la possibilité évidemment d'avoir la traduction simultanée, je dis cela donc cette information pour le public. Carole Trébor, donc autre dame de la notre table ronde, est historienne, auteure et réalisatrice. Elle a travaillé pour de nombreux festivals et elle a assuré une thèse de doctorat consacrée aux échanges artistiques entre la France et l'URSS. Et Carole Trébor, ça c'est important et cela va nous intéresser bien sûr, s'est rendue aux archives de Moscou à un des rares moments où elles étaient ouvertes entre censure soviétique et censure poutinienne. Elle est également écrivaine pour la jeunesse avec la série des Nina Volkovitch. Ensuite nous avons Anthony Valla. Alors Anthony Valla, donc il est né en Suisse en 1972. Il est atteint très jeune par le virus de la lecture et de la science-fiction. En 1991, il va publier sa première nouvelle Corps de chauffe. Il obtient à Lausanne une licence S-lettres en français et philosophie, couronnée par un mémoire sur Philippe K. Dick. Donc c'est un des spécialistes suisses de la science-fiction et de Philippe K. Dick. Actuellement, Anthony Valla est professeur de sociologie à l'École supérieure de santé de Lausanne. Et depuis quelques années, il écrit et fait écrire notamment une anthologie chez Rivière Blanche, Dimension Suisse. Hugo Bellagamba, enfin, notre dernier invité, mais que vous avez vu donc de nombreuses fois sur cette scène. Donc Hugo est directeur artistique des Utopiales depuis 2012, mais aussi maître de conférences en histoire du droit et écrivain. Et ses thématiques privilégiées sont l'utopie, l'Uchronie et l'exploration spatiale. Et je pense que c'est notamment dans son rapport à l'utopie, évidemment, que cette table ronde va particulièrement l'intéresser. Son format de prédilection est la novella, qui lui a valu d'être récompensé par le prix Rognier-Né en 2005 et en 2012. Après Tancred, récompensé par le prix européen des Utopiales, son dernier roman, L'origine des victoires, est un hommage aux femmes et une exploration de l'histoire provençale sous l'angle de la science-fiction. Donc science-fiction et terroir, Hugo, je pense. Voilà. Voilà. Alors, nous allons donc. Quelles sont les perspectives et pourquoi est-ce que nous avons donc conçu cette table ronde ? Alors, d'abord parce qu'il nous a semblé qu'il y avait un lien fort entre l'utopie du XVIIIe siècle et la science-fiction, évidemment, à partir du XXe siècle. Alors, science-fiction peut-être française essentiellement. Moi, je dirais, est-ce que nous avons véritablement un héritage, une veine littéraire ou une rupture peut-être, parce que évidemment entre l'héritage des Lumières, les idées finalement des Lumières et la science-fiction, il y a peut-être un gouffre historique évidemment, et puis surtout un gouffre formel, parce que entre les vaisseaux spatiaux évidemment et certaines idées donc des Lumières, on ne voit pas tellement le lien. Donc nous allons réfléchir justement à comment essayer de créer ce lien. Voilà, alors je vais partir sur cette première idée et demander à nos invités si pour eux il y a véritablement un héritage, peut-être un héritage d'idées entre le XVIIIe siècle finalement et la science-fiction au sens très large. Carole ?
Ah, il marche pas ? Attendez.
Denis, on va faire passer le.
Allô ? Non.
C'est oui.
Bon.
Oui,
c'est bon. En fait, juste. pour lancer des pistes, parce que je ne suis pas spécialiste du sujet, mais la façon de m'interroger, ça peut toujours ouvrir le débat aussi. Pour moi, il y a quelque chose d'intéressant dans le rapport au futur, qui est justement, quand on parle d'utopie, qui est une projection d'un futur idéal, alors que souvent, la science-fiction, pour moi, il y a évidemment cette projection dans le futur, mais qui est une projection plus des peurs et d'un monde où la science, notamment, peut se mettre à dominer l'homme. Et donc, oui, dans la projection dans le futur, on peut dire qu'il y a un héritage, mais non, parce que ça serait une vision idéale du futur, d'une part, et une vision très noire du futur, d'autre part. Donc voilà, je me disais que je pouvais ouvrir le débat comme ça, sans avoir forcément de réponse à donner vraiment.
Oui, alors peut-être, Carole, pour reprendre votre idée, pour les Lumières, l'idée centrale des Lumières, et peut-être que Déborah me reprendra après, c'est l'idée de progrès. L'idée d'abord de progrès social, et puis ensuite, évidemment, progrès scientifique, mais le progrès scientifique sera quand même beaucoup plus réservé au 19e siècle. Donc je dirais cette idée de progrès social, même l'idée même de progrès, finalement, a été inventée littéralement au 18e siècle. Et donc, bien sûr, dans la littérature de science-fiction, c'est le progrès qui est mis en scène. Sauf que parfois, évidemment, ce progrès est jugé néfaste pour l'humanité. Mais en tout cas, au XVIIIe siècle, cette idée de progrès est vraiment essentielle. Et c'est une idée que nous allons retrouver dans la science-fiction. Déborah ?
I think that we are always the inheritors of everything that has come before us. So that means that we are not only the legacy of the Enlightenment, but we are the legacy of the Middle Ages and the Dark Ages and the Classical period and the Renaissance and everything all wrapped up together. So in some ways, to single out the Enlightenment seems to me as a historian a bit problematic, because there are certainly ways in which medieval mysticism, which thought about a perfect utopian world in which religion dominated man, is as much of a science fiction as our more modern iteration. And progress is similarly, for a historian, quite a tricky thing, because we are never making as much progress as we hope or believe that we are actually making. But one thing that historians have argued quite recently, and I think very convincingly, is that perhaps the most important thing the Enlightenment has given us was not science, because science came both... The big developments in science came before and after the 18th century, as you said, but that what Enlightenment really gave us was a sense of cosmopolitanism, a sense of the world as a place and us all as a part of it. And I think that does have a real connection to science fiction in a way, maybe a little counterintuitive, in that by seeking to escape the world, either into fantasy or science fiction, you have to have a concept of the world and how it works in the first place. And it's not to say that people before the 18th century didn't know they were part of a world. They did. But that something very special happened in the 18th century that made you think what you have that is common with someone in China or South America, what is different, and just sort of a different, more critical way of thinking about it. So maybe it's not progress or science, but a sense of the cosmopolitan that is the legacy.
Thank you, Deborah. Hugo ou Anthony, pour ce lien entre progrès et science-fiction.
Alors, moi j'ai aussi écrit en fait un livre que j'ai publié en mars cette année sur Utopie et raison dans Fondation d'Isaac Asimov. Et j'ai trouvé que Asimov, quelque part, est une sorte d'héritier de la philosophie des Lumières. C'est-à-dire que Asimov, dans Fondation, ce qui explique pour moi le succès de Fondation, qui se lit encore aujourd'hui beaucoup, c'est que Asimov a essayé d'imaginer une utopie possible à partir de la seule raison de l'homme. C'est qu'il a imaginé un personnage, Harry Seldon, qui imagine une espèce de science idéale qui permettrait de conduire l'humanité à une forme d'utopie. En tout cas, ce qu'il appelle une société où le taux de souffrance est vraiment minimal. Disons, voilà, une sorte de définition d'utopie. Et Asimov, voilà, donc a présenté ça dans son roman Fondation. Et vraiment, son personnage ne se base que sur la raison pour essayer de construire son utopie. Il invente une science qu'il met en œuvre pour amener l'humanité comme ça à une forme d'utopie. Et par exemple, effectivement, pour moi, Asimov est une forme de successeur des Lumières. C'est qu'Asimov était vraiment un matérialiste athée qui croyait qui vraiment, pour lui, il n'y avait aucune place pour la religion, ni pour le mysticisme, ni pour quoi que ce soit d'autre qui excédait la raison. Et voilà, je trouve qu'effectivement, lui, en tout cas, pour moi, me paraît un très, très digne héritier des Lumières dans sa tentative. Bon, finalement, quand on lit correctement, quand on lit complètement le cycle de fondation, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de constat d'échec de la raison en tant que productrice possible de l'utopie et qu'il est obligé de finalement faire appel à peut-être d'autres choses chez l'homme pour construire son utopie. Voilà, donc je voulais dire pour l'instant.
Oui, mais c'est un bon exemple, hein, Hugo.
Alors, pour essayer de compléter tout ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord. D'abord avec Déborah, puisque c'est vrai que c'est difficile d'isoler les Lumières comme ça d'un processus historique. Hein. Pour moi, en tant qu'historien, je suis d'accord avec toi aussi. C'est-à-dire que les Lumières sont plutôt la fin des temps modernes plutôt qu'une période isolée. Donc, elles portent en elles la continuation de la Renaissance et du Moyen-Âge. Hein. Le Moyen-Âge lui-même étant produit par ce qui l'a précédé. Donc c'est vrai que l'idée d'isoler des Lumières comme ça est un peu limitée, même si on trouve, à travers ce qu'a dit Anthony, on trouve des exemples tout à fait clairs, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, Asimov est clairement un matérialiste, clairement un rationaliste, et donc un héritier de cette philosophie. C'est vrai que voilà, on a quand même ce côté un peu réducteur quoi, d'isoler des Lumières. Moi, ce qui me plaît dans l'idée de la science-fiction héritière des Lumières, et je vais revenir sur ce qu'a dit Carole aussi, c'est l'idée que les Lumières, c'est pas simplement l'âge du progrès, et c'est l'âge de l'esprit critique. C'est-à-dire, c'est l'âge de l'encyclopédie, de Diderot et d'Alembert, et c'est l'époque où on apprend par comparatisme, par comparaison, à interroger le monde. C'est-à-dire à ne pas accepter ce qu'est le monde sans le critiquer. Et cet esprit critique, très, très bien incarné par Voltaire notamment, mais qu'on va retrouver aussi chez Rousseau, Montesquieu et d'autres penseurs, et en particulier chez les rédacteurs de l'encyclopédie, permet de faire ce que fait la science-fiction, c'est-à-dire de décaler le regard, de changer le référentiel pour permettre de mieux percevoir la relativité des sociétés. Et je crois que le XVIIIe siècle est un siècle particulièrement puissant sur ce plan-là, c'est-à-dire sur la perception de la relativité des sociétés. Ce que dit Montesquieu quand il écrit l'esprit des lois, il dit notamment la loi est partout et partout elle est différente. Et donc il n'y a pas un seul système juridique qui soit universel, il y a plusieurs types de sociétés, il y a une pluralité de sociétés et chacune a sa propre histoire. C'est un peu le fondement de l'anthropologie. Or pour moi la science-fiction, telle que je l'aperçois en tant qu'auteur, en tant que passionné du genre, c'est un genre de type anthropologique. Il y aura une table ronde peut-être demain, je crois, sur ça. C'est-à-dire, c'est un genre qui nous fait percevoir la relativité de ce que nous croyons être absolu. Et ça, le XVIIIe siècle l'a quand même porté. Et en ce sens, c'est quand même quelque chose dont la science-fiction est l'héritière. Après, comme le disait Carole, effectivement, les futurs projetés au XVIIIe siècle sont plutôt des futurs idéaux, un peu naïfs. Mais c'est vrai que on a ce futur, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce texte merveilleux, c'est un texte français de Louis-Sébastien Mercier, qui s'appelle « L'an 2440, rêve s'il en fut jamais », et qui invente, qui imagine un Paris du futur, un Paris du 25e siècle, où tout est idéal, la monarchie absolue est restée, parce qu'elle était idéale pour l'époque, mais surtout c'est une monarchie absolue éclairée, guidé par la science, ou le télescope, nous dit Louis-Sébastien Mercier, est devenu un canon moral de la société. Et donc, c'est vrai, il n'y a pas de futur en négatif. Donc ça, par contre, c'est effectivement une limite de ce rattachement-là au 18e. Mais le 18e a son rôle à jouer. Comme on parle souvent du 19e siècle, on dit toujours l'industrialisation, la mécanisation de la société ont enfanté la science-fiction. Je pense que c'est quand même bien de rappeler que l'esprit critique a joué son rôle aussi.
Et juste pour rebondir sur ce que tu dis sur les décalages, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, au 18e siècle, à cette période-là, il y a tous les voyages imaginaires. Alors, ce qui est drôle, c'est que tu parles de la projection dans le futur, enfin, la science-fiction, donc un monde à venir. Et là, c'est un peu le contraire. Quand on prend le Micromégas de Voltaire, on a quelqu'un qui vient d'ailleurs, et ce décalage, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui le porte sur la société. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment le décalage est proposé par les auteurs pour de toute façon clairement changer le regard et décaler le regard sur le monde.
Bien sûr, Micromégas, ou par exemple on peut citer Ouzbek et Rika dans Les Lettres persanes de Montesquieu, c'est toujours pareil, c'est l'idée de regarder de loin la société pour mieux voir ce que fait la science-fiction, ce qui est à l'œuvre dans le corps social et que peut-être au jour le jour on ne perçoit pas. Donc ça, je crois qu'on est dans l'imaginaire au sens large, je ne parle pas de science-fiction au sens strict, mais nous sommes aussi les héritiers de cette technique de recul pour mieux identifier les dérives éventuelles.
Alors si l'on revient au XVIIIe siècle, ou au moins à l'esprit des Lumières, et si on va un tout petit peu plus, je dirais, soit au début du XVIIIe siècle, soit à l'extrême fin du XVIIe siècle, parce que l'esprit des Lumières va prendre naissance, à la fin du XVIIe siècle, et si on se place dans une perspective historique de la science-fiction, comme par exemple se placer Pierre Versin, eh bien Pierre Versin a notamment... C'est une opinion, c'est une idée évidemment qui est tout à fait discutable, hein, et que l'on discute encore aujourd'hui, mais si l'on garde justement cette espèce de veine ou d'héritage littéraire, si vous prenez par exemple quelqu'un comme Cyrano de Bergerac, hein, Hercule Savinien de Cyrano d'ailleurs pour son vrai nom, donc à l'extrême fin du XVIIe siècle, dans Les États et Empires de la Lune, ou encore évidemment Micromégas, ou encore évidemment Swift chez les Anglais, pour quitter un petit peu le domaine français, avec Les Voyages de Gulliver. Là, on a non seulement, on n'a pas uniquement l'idée de progrès, mais on a aussi l'idée évidemment d'esprit critique. Et moi, je crois que la science-fiction, c'est aussi une littérature, enfin, anticipation et science-fiction, c'est aussi une littérature dont le fondement est la critique. Et je crois très honnêtement que cette critique, elle est née finalement dans cette fin du XVIIe siècle et puis de cette première partie du XVIIIe siècle. Et que la science-fiction, elle est héritière aussi, justement, de cet esprit critique-là. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Déborah, peut-être. Se plaçant juste dans l'esprit critique, dans la littérature.
As the critical, I would have to say that I don't think that criticism in the 18th century would have been possible without religious criticism in the 16th century. Which would not have been possible without textual criticism in the 15th century, which would not have been possible without societal critique in the 14th century, and that one of the most troubling for me, and I am a historian of the 16th century, I'm not fond of the 18th century in a lot of ways, but one of the problems for me is that in the 18th century, we actually, to my mind, see a gap between what we are willing to criticize and then what we do, we see often is a projection of a solution in the future, in an imaginary place. Whereas I actually think in the 16th century, they criticized things, and then they tried to fix it right then, often with very bloody results. But nevertheless, there is an interesting tension in the 18th century between critique and putting that into practice, I think. So just to think about that.
D'ailleurs, peut-être, je vais aller encore un petit peu plus dans le passé. Peut-être, si l'on revient à l'année 1516, avec l'utopia, évidemment, de Thomas More. L'utopia de Thomas More a eu un retentissement, évidemment, jusqu'au XXe siècle, n'est-ce pas, Carole? Et jusque chez Lénine, puisqu'ils ont érigé une stèle, il me semble, à Moscou, donc à la mémoire de Thomas More. Donc, pour bien montrer qu'en fait, il y a une filiation dans cette idée finalement d'utopie, de projection finalement de la société. Mais il ne faut pas oublier que l'utopia, c'est aussi, il y a une partie projection évidemment de la société parfaite, mais il y a aussi toute une partie critique. Mais ça peut-être, les communistes n'ont pas voulu...
Si j'essaye de rester sur la science-fiction, juste par rapport à ce que vous dites... Ce qui peut être intéressant comme idée, c'est une projection d'un monde qui est imaginaire et idéal. Qu'est-ce que ça fait s'il devient réel ? Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, donc, quand on pense à tous les gens qui inventent encore aujourd'hui des mondes, est-ce qu'il y en a qui sont devenus réels ? Est-ce que si ça devient réel, si, est-ce qu'on peut s'inspirer d'un modèle utopiste de monde ? Est-ce que l'auteur qui invente un monde idéal, est-ce qu'il voudrait qu'il devienne réel? Est-ce qu'il peut le devenir? Et est-ce que s'il le devient, ça ne devient pas effectivement une dictature ou un système horrible. Et là, on peut aussi faire le lien avec les Lumières philosophiquement, en se disant le thème de la raison sans la sensibilité, la place de chaque individu à l'intérieur de ça, un système sans improvisation, etc. Voilà. Et ça, je pense que Hugo, vous pouvez peut-être.
Oui, en fait, c'est cette idée justement du caractère réalisable ou non de l'utopie me semble assez caractéristique du 18e encore. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux chemins vers l'utopie. Il y a un chemin qui est l'utopie comme outil critique de la réalité. Et donc, c'est le siècle, le 18e siècle, c'est vraiment le siècle, comme dit Bronislaw Bashko, qui est ce Polonais, ce spécialiste de l'utopie, qui a écrit « Le siècle des Lumières, le siècle des Utopies », c'est le siècle le plus chaud de l'utopie, explique qu'il y a deux chemins. L'utopie est un outil critique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vocation à se réaliser, elle n'a pas vocation à être concrétisée, mais elle va servir justement, un peu comme on l'a dit dans la première partie de la table ronde, à permettre aux contemporains, aux lecteurs, de prendre conscience des dérives ou des limites ou des problématiques à l'œuvre dans leur monde réel. Et donc, je pense que c'est ce que faisait essentiellement Thomas More, d'ailleurs, hein, c'est vraiment lui le fondateur,
oui.
Et je suis tout à fait Déborah, sans Thomas More, sans le XVIe siècle, sans la rupture de l'universalisme chrétien, tout le courant utopique n'aurait pas existé. Donc même s'il rayonne complètement au XVIIIe, il n'est rendu possible que par l'existence de Thomas More, qui lui-même avait un regard vraiment critique, c'est-à-dire la fonction critique de l'utopie, c'est Thomas More qui la pose, et à aucun moment donné, il n'a cru véritablement à la possibilité de l'Angleterre telle qu'il l'a décrit dans la deuxième partie de l'utopie. Par contre, à partir du XVIIIe siècle, avec l'idée de progrès, comme tu l'as bien dit, Natacha, avec l'idée de progrès, se développe un commencement, un frémissement, pas tout à fait avec Louis-Sébastien Mercier, mais un petit peu plus tard, d'utopie réalisable. C'est-à-dire l'idée qu'on va ambitionner de décrire des eunomies, comme dit très bien Gérard Klein, que je vois ici au deuxième rang, dans un célèbre dictionnaire de l'utopie. On va décrire des systèmes juridiques, institutionnels, praticables, qui peuvent être mis en œuvre et qui, par conséquent, vont apporter le bonheur. Et là, il y a une grande faiblesse du 18e, et je pense que Déborah, c'est ce qu'elle voulait tout à l'heure aussi suggérer, c'est de croire que des institutions parfaites suffisent à créer le bonheur. Et à ce moment-là, on glisse vers quelque chose qui est beaucoup plus dangereux et qui est beaucoup plus finalement un outil de la science-fiction. C'est l'idée de construire des futurs que nous allons réaliser et vers lesquels, évidemment, nous allons aller. Et là, à ce moment-là, on ferme l'ensemble des perspectives, on réduit tous les futurs possibles à un seul et on glisse vers la dictature assez rapidement, ce que le XXe siècle nous a montré. Donc je crois qu'il y a un moment donné où cette branche, cette divergence des utopies critiques et des utopies programmatiques, c'est l'un des héritages du XVIIIe siècle. Et la science-fiction, je crois, fermement, on est aux utopiennes, mais je crois fermement, se situe dans cette fourche, entre ces deux possibilités.
Ah, oui.
Les auteurs de science-fiction, tu vas nous parler d'Isaac Asimov, voilà. Sans doute, mais ne pensez pas que les futurs qu'ils décrivent se réaliserait un jour, j'imagine.
Et justement, Tony, est-ce que on a parlé d'Asimov, mais Asimov, c'est une vision, c'est pas une vision peut-être dystopique finalement du progrès ou même de l'humanité. Est-ce que il y a peut-être d'autres auteurs, justement, alors américains ou européens ou français, qui se situent plus dans une veine dystopique et qui vont nous montrer exactement ce que Hugo vient de nous dire.
Alors. Moi, déjà, dans Fondation, par exemple, Asimov prend en compte justement ce problème par rapport à la dictature. C'est que dans son esprit à lui, il faudra 1000 ans pour que l'humanité accepte qu'une élite dotée de raison puisse diriger l'utopie. C'est-à-dire qu'il imagine qu'on ne peut pas tout de suite faire accepter à une société l'idée qu'une élite qui comprend comment il faut faire fonctionner la société puisse diriger cette société. Donc il estime qu'il faudra au moins 1000 ans pour qu'ils acceptent ça. Donc déjà, effectivement, il a cette idée que ce n'est pas réalisable tout de suite. Après, on peut voir dans d'autres... par exemple, dans Dune, c'est assez intéressant, c'est qu'on voit que, là aussi, on a ce problème d'une vision de l'utopie, c'est-à-dire que Paul Atreides, tout à coup, après avoir pris de l'épice, voit quelle est la société idéale qui pourrait être construite, puisque grâce à l'épice, il voit tous les futurs possibles et toutes les directions possibles de l'avenir et de l'évolution de la société. Et que Paul, tout à coup, voilà, choisit quelque part la meilleure voie, ce qu'il appelle, je crois, la voie d'or, le chemin d'or, je ne sais plus comment il appelle ça exactement. Par contre, là, ce qui se passe, du coup, c'est qu'il lance ses Fremen à l'assaut de la galaxie. Il y a des milliards de morts qui après la galaxie. Et finalement, il y a une espèce de société utopique installée de force par l'empereur dieu de Dune, qui dure plusieurs milliers d'années. Et qui est effectivement... Moi, j'aime beaucoup le quatrième volume de Dune, l'empereur dieu de Dune, parce qu'on a un peu cette espèce d'empereur dieu qui contrôle une espèce d'utopie obligatoire, imposée de force à l'homme, comme ça, et qui peut être vue aussi comme une force de dystopie, puisque après... toute la société galactique de l'époque conspire à faire tomber l'empereur dieu, malgré une espèce d'état de paix ou de bonheur un peu imposé de force. Donc, Frank Herbert aussi, effectivement, du coup, montre une espèce d'utopie, à la fois dystopique et utopique. Voilà, c'est à discuter. Mais en tout cas, je trouve qu'on voit bien ça à l'œuvre aussi dans Dune. Voilà.
D'accord. Une autre idée. Oui. Une autre idée qui sera évidemment, à notre avis, qui pourrait être rentrée dans cet héritage entre la science-fiction et le XVIIIe siècle, c'est le rapport au bonheur. Parce que au XVIIIe siècle, les Lumières vont également créer littéralement cette idée de bonheur, qui bien évidemment est liée au matérialisme athée, puisqu'à partir du moment où l'on ne croit plus en une vie éternelle, promise évidemment lorsqu'on est croyant, eh bien, il faut bien sûr s'assurer de son bonheur sur Terre. Or, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir, d'après vous, comment finalement cette idée de bonheur, elle est traitée par la science-fiction. Parce que là, on va retomber sur l'utopie programmatique. Est-ce qu'il est possible de faire le bonheur des citoyens malgré eux, ou avec eux, ou contre eux, je ne sais pas. J'ai toujours cette idée, peut-être que Déborah pourra nous en parler après, mais moi j'ai toujours quand même l'idée que, sous la terreur, Robespierre a voulu, pour remplacer justement la religion, enfin les religions chrétiennes, a voulu, et notamment la religion catholique, a voulu instaurer un culte de la raison et de la vertu, qui a été un échec total, parce que finalement, les gens n'ont absolument pas suivi finalement cette espèce de mysticisme de la raison et cette envie de faire leur bonheur malgré eux dans cette vertu, mais qui était une vertu évidemment selon Robespierre, donc une vertu quasiment totalitaire et dictatoriale. Donc voilà, je pense que cette idée-là, elle est importante aussi, on va la retrouver dans la science-fiction. Mais c'est peut-être aussi une idée qui nous vient de l'utopie, cette idée de bonheur obligatoire.
Again, I think one of the key things that's interesting is the tension then between enlightenment and religion, because in fact free will is something that many of us would consider essential to being a utopia, and it's not something that often is very, you know, there's an interesting tension in the enlightenment about that. Now, in terms of happiness, there's a wonderful 17th century English woman who writes science fiction, Margaret Cavendish. And Margaret Cavendish wrote a book about the new, it was called The New World Called the Blazing World. And clearly the point in which she has two bodies, she talks to herself, but clearly the thing that was utopia for her was being invited to join the Scientific Academy. That's the end of the story, is, you know, she's invited inside the Scientific Academy, which she was banned from. So happiness is also quite an individual thing. And she wrote a whole science fiction story that was essentially about that, and one wonders if that would have made everyone happy in the late 17th and early 18th century, as opposed to, you know, better meals or a house with a roof on it or whatever it might be. So happiness adds an interesting note of individual agency and free will that I think is very different, in fact, from sort of that materialism, a sort of Cartesian, if you build the perfect system, everything will just take care of itself.
Carole, peut-être, pardon. Carole, oui, par rapport justement au régime communiste, ce qui est intéressant, vous qui avez consulté donc ces archives, Marx se moquait beaucoup des utopistes du 19e siècle. Il les prenait pour de doux rêveurs. Et finalement, est-ce que durant ce régime communiste en Union soviétique, on a essayé, d'après vous, de faire le bonheur des gens malgré eux, ou pas le bonheur du tout?
Il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais rebondir. Par rapport à ce qui est drôle dans ce que vous dites, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle la propagande pour le bonheur. qu'on voit dans toutes les formes artistiques, qui effectivement, ça serait intéressant de faire un parallèle avec une forme de science-fiction, de propagande, qui pourrait tout à fait être envisagée. Sauf que l'idée, c'était, à partir du moment où on était en URSS, c'est que le bonheur, c'était aujourd'hui. Donc effectivement, pas besoin de science-fiction, pas besoin de projection dans l'avenir d'un monde idéal, parce que le bonheur, c'est aujourd'hui. Donc la science-fiction, de toute façon, aurait été censurée, parce que la science-fiction n'aurait pas été dans un réalisme socialiste imposé, obligatoire et correspondant à la vision du bonheur aujourd'hui en URSS. Donc voilà, après, ce qui est intéressant, c'est effectivement, on peut pas forcer. Enfin, ce qui est intéressant après, c'est comment la science-fiction, dans sa projection, s'interroge sur ce que c'est que le bonheur. Ça, je trouve ça intéressant. Et effectivement, on ne peut pas imposer le bonheur. Alors, si on rebondit sur les Lumières, le bonheur, c'est le choix, c'est la liberté de choix, et c'est ce que l'entendement, la raison, peut nous permettre de choisir. J'ai l'impression qu'il y a de ça dans le bonheur. Et le rapport à la nature. Et là, c'est intéressant par rapport à la science-fiction, je trouve, parce que le bonheur, peut-être pour un certain nombre de philosophes des Lumières, il vient plus de ce qui est naturel. Et en même temps, la raison permet la liberté. Donc c'est ce mélange entre les deux choses philosophiquement qui va vers le bonheur pour les philosophes des Lumières, avec effectivement l'entendement au centre, mais aussi une forme de sensibilité qui quand même est vraiment reconnue. Et après, dans le lien à la science-fiction, c'est intéressant de voir justement comment souvent le non-bonheur vient d'un trop de raison, vient d'un trop de science, pourtant ça s'appelle science-fiction, et vient de l'oubli de la sensibilité. Et ça, c'est vraiment repris, je crois, par les auteurs de science-fiction. C'est-à-dire l'oubli de la sensibilité, l'oubli de l'individu amène le non-bonheur.
Oui, et c'est ce qui est donc montré, peut-être Anthony Hugo, vous allez pouvoir rebondir là-dessus, c'est peut-être ce qui est montré aussi dans les œuvres dystopiques de la science-fiction. On peut évidemment citer 1984, mais là c'est même de la contre-utopie, mais je pensais par exemple à Zamiatine, à Nous autres de Yevgeny Zamiatine, 1922, ou bien sûr Huxley et son meilleur des mondes, donc 1932, ou encore par exemple Un bonheur insoutenable de Ira Levin, donc dans les années 60, 1963, je crois, sur la date. Voilà. Donc,
pour moi, la réponse est assez simple, finalement un peu complémentaire de ce que tu as dit, Carole. Finalement, utopie contre utopie, pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire que bonheur et absence, bonheur totalitaire ou bonheur libre, puisque c'est ça finalement la dualité, c'est-à-dire le bonheur choisi comme effet du libre arbitre ou le bonheur imposé par une logique sociale uniformisante, unitaire, totalitaire, c'est le même, ce sont les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire que même si c'est vrai que la science-fiction a très souvent montré plutôt des mondes dystopiques, plutôt des mondes sombres, plutôt des mondes où l'individu, la liberté était complètement conditionnée, était complètement uniformisée, on est quand même dans la logique utopique, c'est-à-dire que finalement, montrer le côté négatif de la pièce, c'est rappeler l'existence du côté positif. Donc de ce point de vue-là, pour moi, ça ne fait que conforter l'idée que la science-fiction est aussi, pas que, hein, mais aussi l'héritière des Lumières, puisqu'elle interroge le rapport entre la liberté et le bonheur. On a des tas de romans de science-fiction dans lesquels vous avez ce fameux rouage qui grippe, cet individu qui, à un moment donné, comme dans New York de Stefan Wühl, par exemple, ou dans d'autres romans très connus, que ce soit la science-fiction française ou autre, qui va se mettre en décalage de sa société, en décalage des hiérarchies héritées, et qui d'abord va être stigmatisé, puis petit à petit trouver un chemin. C'est l'âge de cristal, c'est tous les grands classiques de ce rouage qui devient petit à petit le moyen pour le lecteur de comprendre qu'un système, même totalitaire, peut toujours être abattu. Et finalement, c'est l'appel de la liberté.
Pour le public plus jeune, on pourrait citer par exemple deux dystopies contemporaines, c'est par exemple Hunger Games et puis bien sûr Divergente, parce que ça, ce sont deux exemples très très contemporains, même si c'est issu évidemment d'une littérature plutôt jeunesse, mais l'idée est intéressante, c'est-à-dire c'est l'individu finalement qui va jouer le rôle de grain de sable dans une dictature ou dans un système bien institutionnalisé.
Moi, je me suis demandé en préparant cette table ronde si, au fond, on pouvait pas regarder qu'est-ce qui fait que le personnage, justement, réussit à rectifier l'univers ou à corriger le problème de départ. Est-ce que c'est sa raison ou est-ce que c'est d'autres facultés de son esprit? Et pour revenir à ce que vous disiez, il y a un romancier de science-fiction française qui a eu beaucoup de succès en montrant des personnages qui corrigent l'univers ou qui corrigent la disharmonie de l'univers en passant par autre chose que la raison. Je pense au roman de Pierre Bordage, par exemple, où finalement les personnages, pour résoudre la disharmonie croissante du monde dans lequel s'installe la galaxie ou la société qui est mise en scène, sont obligés de passer pas par la raison, mais par d'autres facultés, comme une sorte de sensibilité à l'harmonie du monde, à un autre rapport à la nature, à revenir à des choses essentielles, à retrouver une espèce de communication avec autre chose qu'une simple raison froide. Et j'ai l'impression que le succès de Pierre Bordage vient aussi de ça, c'est-à-dire peut-être des sortes de romans anti-philosophie des Lumières, je ne sais pas, mais en tout cas un retour comme ça à une sorte de communication harmonieuse à la nature, justement, de se référer à des vérités qui existeraient comme ça dans la nature et que la raison pourrait peut-être reconnaître.
Dans le combat d'hiver, là, justement, là-dedans. Allô ? On m'entend ? Il marche d'un côté seulement. Je pense à la chanson, au chant. Il y a le personnage de Bordage qui réussit à sauver le monde grâce à son chant, grâce à la musique seulement. Et ça, c'est hyper fort. Parce qu'il arrive, et là, il détourne tout. Et c'est effectivement son talent de chanteuse qui va sauver le monde, quand même. Et qui va permettre le vrai changement. Donc ça, c'est vrai que c'est très, très fort d'avoir réussi à faire ça. Il a vraiment inversé quelque chose, là, énormément.
It's also a fascinating contrast between science fiction then and fantasy writing, which are often linked together, but in which in almost every case is about the power of the individual to make change against another equally powerful or more powerful initially and less powerful later on individual, and it is, you know, it is the good evil, the, you know, a classic dichotomy of good and evil. That needs to be rebalanced, that needs to be brought into harmony. But you do see this then, compared to what Anthony is saying, the sort of very interesting both overlap and also point of tension between what does science fantasy do to the individual, what does fantasy and science fiction, you know, how are they similar and different?
Yeah. Dernier, oui, pardon,
pour Hugo. Rebondir sur la fantasy et la science-fiction, on entend trop souvent opposer les deux. Alors c'est souvent... on le disait encore hier en rigolant, on oppose les deux, fantasy et science-fiction, mais ça continue à me gêner, c'est-à-dire que finalement, pourquoi la fantasy n'utilise-t-elle... Oh là là, je ne vais pas y arriver, c'est la fatigue. Mais n'utilise-t-elle pas, merci, ça commence à fatiguer. N'utilise-t-elle pas les outils de la science-fiction et pourquoi la science-fiction se priverait-elle du merveilleux qu'on associe souvent à la fantasy ? Finalement, il n'y a pas de frontière si on revient sur les temps modernes et si on revient sur les Lumières représentant la fin des temps modernes et la Renaissance, le début de ces temps modernes avec l'héritage médiéval. Finalement, il n'y a pas de raison de vraiment séparer les deux, c'est-à-dire que les outils culturels, les repères culturels peuvent aussi bien nourrir une évasion de type fantasy et en même temps une critique de type institutionnel. Donc il n'y a pas vraiment... Peut-être c'est une manière aussi, cette table ronde, de se dire que... faudrait peut-être un peu cesser de faire un peu des catégories finalement un peu comme ça strictes, et que c'est vrai que si la science-fiction est souvent l'héritière de la raison, si elle n'a que la raison comme principe directeur, finalement elle finit aussi par s'étioler et parfois il lui manque des éléments de fantaisie.
C'est la notion de magie en fait qui effectivement oppose les deux, qui est quand même importante dans ce sens-là, parce que je sais pas, entre les Lumières et la magie quand même. Je pense que la magie, à l'époque des Lumières, elle était associée plutôt à quelque chose de négatif et de rétrograde. Je ne sais pas. Mais, donc peut-être que quand même, par rapport à science-fiction, fantasy, c'est la notion de magie qui quand même fait une différence. Peut-être qu'un roman de fantasy peut avoir finalement des ressorts dramatiques, narratifs, qui sont les mêmes que ceux de la science-fiction. Est-ce qu'en science-fiction... on accepte la magie, vraiment ou pas ?
Oui. Alors, je peux citer un auteur qui, je crois, est sur le salon. C'est un auteur français, c'est Lionel Davoust, qui a fait d'ailleurs... Alors, on a travaillé très, très récemment un colloque à Bordeaux sur, justement, l'hybridation dans les genres de l'imaginaire entre fantastique, merveilleux, fantasy et science-fiction. Et Lionel Davoust nous a expliqué le fonctionnement d'un de ces mondes qui s'appelle Evanégir et qu'il a appelé de la science-fantasy. Voilà. Donc je crois qu'il y a cette hybridation. Les auteurs aujourd'hui ne se privent absolument pas de cette hybridation. Et on est peut-être sur une nouvelle évolution, finalement, de nos littératures, de l'imaginaire que nous aimons, soit de la science-fiction, soit de la fantasy. Voilà.
Mais oui, puis on peut citer bien sûr d'autres auteurs comme Jack Vance aussi, hein, c'est-à-dire que la magie chez Jack Vance, extrêmement rationaliste, mais en même temps ça reste de la magie. Donc oui, effectivement, c'est pas très nouveau finalement. L'idée peut-être de se dire que si on fait la synthèse, si on fait un peu sans bénéfice d'inventaire, mais une synthèse ouverte de tous les siècles qui ont précédé, de toutes les sources d'inspiration de la science-fiction, on trouve les lumières, mais ces lumières ne sont pas isolées parmi d'autres sources d'influence. C'est pour ça qu'il faut arrêter de voir toujours la Renaissance et le Moyen-Âge comme les zones réservées de la fantaisie, et puis les lumières et l'industrialisation un peu comme des zones réservées de la science-fiction. Ça, voilà, c'est une des leçons qu'on peut tirer peut-être aussi.
De toute façon, les littératures de l'imaginaire sont des genres et des mondes qui sont tout le temps en expansion. Et je crois que ce que tu dis, hein, ce sera peut-être le mot de la fin avant de passer donc aux questions pour le public. Voilà, donc c'est une belle conclusion, c'est-à-dire que nous ne nous arrêtons pas ni à une influence, ni finalement à une formalisation des genres des littératures de l'imaginaire, mais il faut les voir plutôt comme des mondes en perpétuelle expansion. Voilà, est-ce que donc nous allons réserver maintenant un temps de questions pour le public?
Donc, est-ce que je peux poser une question?
Ah oui, attendez, on a. Mais oui, vas-y, Carole, puis après on a un monsieur.
Je peux poser une question en tant que public. J'aurais une question parce que il y a la présence chez les Lumières de l'ironie dans le regard sur le monde. Est-ce qu'on la retrouve dans la science-fiction? Est-ce que vous auriez des exemples à nous donner de cette ironie-là dans la science-fiction?
Oui, comme dit le monsieur au premier rang que je vais nommer. Monsieur Georges, oui, bien sûr que la science-fiction est ironique, et il a parfaitement raison, notamment dans l'œuvre de Robert Heinlein, on joue beaucoup sur l'ironie, c'est-à-dire on affecte de croire aveuglément à la qualité d'un système ou à la puissance d'une idéologie, alors qu'en fait on le fait de manière très décalée, de manière très ironique, et oui, tout à fait, la science-fiction est très largement ironique, et joue sur l'ironie, bien sûr, de façon très, très régulière. C'est même une école de l'ironie, d'une certaine manière, à son meilleur. La science-fiction est ironique. Alors, par contre, la fantaisie est-elle ironique?
Non, mais le lien avec les lumières, là, est important.
Very ironic. Thomas More's Utopia. Completely ironic. So.
Bien, on va revenir. Monsieur, je crois, dans le fond, vous aviez une question.
Georges Bormont.
Voilà.
Oui, merci. La philosophie des Lumières, c'est un peu l'avènement de l'individu. Et dans la littérature de l'imaginaire d'aujourd'hui, on s'intéresse quand même de plus en plus à ancrer un monde et on s'intéresse à qu'est-ce qui se passe avec ces nouvelles règles qu'on a créées un petit peu. On lance la machine, on voit comment ça se passe. Donc, au final, est-ce que ça s'est pas un peu perdu? Est-ce que cette idée de mettre l'individu au centre du récit, c'est quelque chose qui a évolué? Bon, je pense que ça a été abordé, mais vous pouvez approfondir un peu sur cette idée de remettre l'individu au cœur du récit.
Alors, votre question, moi, me plaît énormément parce qu'effectivement, les Lumières sont aussi très individualistes, hein, quelque part. Et cet individualisme a marqué la science-fiction pendant longtemps. Le héros de science-fiction, on le disait tout à l'heure, c'est le rouage qui grippe, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi que la science-fiction, enfin, en tout cas, pour moi, mais je pense qu'aussi c'est vrai d'une grande partie de la fantasy, c'est aussi le récit de société, c'est-à-dire le récit de communauté. Et que finalement, à l'heure actuelle, où peut-être l'individu n'est plus la grille exclusive d'explication ou de convergence de tous les changements du monde, et qu'on revient aussi parfois vers des notions plus collectives et plus de type communautaire, précisément, la science-fiction a aussi un héritage à offrir, qui est l'héritage de qu'est-ce qu'une communauté, quels sont ses repères culturels, comment elle évolue, etc. Et donc, oui, l'individu n'est pas en aucun cas, évidemment, le seul horizon de la science-fiction.
Oui, mais dans la dystopie, si, quand même, dans puisque, voilà, dans un sous-genre, finalement, de la science-fiction qui est la dystopie, vous voyez, je citais tout à l'heure Hunger Games et Divergent, Là, on est vraiment sur le parcours, la quête d'un individu qui essaie tant bien que mal, finalement, de se désengluer d'une situation ou d'une société qui est en train de l'enfermer petit à petit, ou tout du moins de le programmer. Vous voyez, donc je crois que dans toutes ces histoires où il y a la quête de quelqu'un contre une société, pour créer peut-être une autre société, mais c'est quand même avant tout le parcours, dans la dystopie, c'est le parcours d'un individu, vous voyez. Ça c'est vraiment très 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 clair, jusqu'à aujourd'hui. Oui, monsieur Klein, deuxième rang.
Un jeune lecteur.
Un jeune lecteur, monsieur Klein.
Un jeune lecteur naïf et touchant.
Et anonyme.
Merci. Et anonyme. Vous pardonnerez à mon ignorance, c'est l'effet de mon inexpérience. Je voulais dire un mot à propos de l'ironie. Parce que je crois que la science-fiction est, surtout depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, les années 50, presque le seul genre véritablement ironique qui nous reste. Il est très difficile de trouver de l'ironie dans la littérature générale. Vous avez un Voltaire au XXe siècle, il s'appelait Robert Sheckley. Vous avez une revue entière qui était pratiquement consacrée à de l'ironie en science-fiction, elle s'appelait Galaxy. Donc c'est l'ironie, non seulement elle est présente, mais c'est vraiment une des dimensions fondamentales de la science-fiction contemporaine, la deuxième partie du XXe siècle, et même peut-être avant, mais il me faudrait 2 ou 3 heures pour développer le sujet. Je voudrais dire, passons.
Donc effectivement, dans cet héritage, on m'entend ?
Non.
On m'entend ?
Non.
Allô ? Ouais, de ce côté ?
Là, c'est bon.
Ouais. Donc effectivement, quand même, sur ce lien aux lumières, l'ironie est vraiment hyper important. Finalement, je me dis que si héritage il y a, peut-être précisément, parce que je suis assez d'accord aussi avec Déborah sur le fait que elle peut, tout genre peut venir de tout genre, enfin qu'il y a quelque chose d'assez toujours compliqué de dire ça vient des Lumières, mais ça vient aussi de l'utopie d'avant, et Homère, alors n'en parlons pas. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, voilà.
C'est le modèle de la littérature.
Mais par contre, l'ironie, je me dis, tiens, là, il y a quelque chose quand même entre cette ironie, parce que en fait, ça rejoint l'idée de décalage dont vous parliez. D'un regard décalé. L'ironie, c'est un décalage. Et donc, on a ça aussi.
Et l'ironie, c'est, en grec, c'est ironeia, qui veut dire le détour. Donc, oui. C'est un langage qui va, en fait, utiliser un détour pour, finalement, nous montrer quelque chose. Et quel meilleur détour y a-t-il sur la description d'une planète, d'un monde, finalement, qui vit, enfin, d'un très lointain monde dans une galaxie, etc.
Si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'on rencontre de l'ironie, et je crois que c'est vraiment très important, c'est pour ça que j'y insiste. Chez un auteur comme Frank Herbert, on ne l'attendrait pas nécessairement. Dans Dossadi, par exemple, il est question du BUSAB, le bureau des sabotages, c'est-à-dire la nécessité pour qu'une administration fonctionne bien, qu'il y ait une administration qui soit entièrement dévouée au sabotage de toutes les autres. Bon. Et c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent chez Herbert. Dans Dune, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais il y a un aspect très important. Oui, non, je suis d'accord, je ne te laisse pas la parole. Oui, voilà, il y a une très grande ironie, parce que dans le sentier d'or, dans lequel l'empereur dieu de Dune, qui est aussi dans le cycle proprement de Frank Herbert, le volume que je préfère, dans le sentier d'or, l'empereur dieu de Dune va imposer à l'humanité une paix de 1000 ans pour l'obliger à recouvrer sa liberté. C'est-à-dire, au fond, l'avenir ne peut pas être prédit, même pas par le prescient. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et l'empereur dieu de Dune organise l'attentat qui va lui donner un terme. Je crois que ça résume quelque chose qui est très important dans la science-fiction et qu'on retrouve sous une autre forme dans la prospective, domaine auquel je me suis un petit peu adonné. C'est le côté les 1000 sentiers de l'avenir. L'utopie a tendance, chaque utopie particulière, à refermer l'avenir. La science-fiction en tant que genre, dans la diversité de ses auteurs et de ses textes, ouvre toujours l'avenir. 1 000 000, 1 milliard sentiers de l'avenir.
Merci Gérard. D'autres questions dans le public ? Il nous reste 5 petites minutes. Oui, monsieur ?
Dans tout ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant, on se rend compte qu'il faut une certaine éducation de la culture pour en comprendre globalement, en faire le tour, toutes les problématiques des Lumières, etc. Ce qui m'amène à revenir à Robespierre, qui a voulu imposer une espèce de pas une forme de religion, mais une forme de, comment, de philosophie sur, comment vous disiez déjà ?
Mais sur la raison et la vertu. La vertu, selon Robespierre, puisque Robespierre était un homme qui extrêmement chaste, et pour lui, la sensibilité et le dérèglement des sens ne rentraient pas dans un exercice, on va dire, quasiment mystique et idéaliste de la raison. Et c'était exactement ça. C'était vraiment le culte de la raison.
Ok. Ce qui m'amène à poser la question, si ça n'a pas marché, est-ce que c'est aussi parce que la population n'était pas elle-même suffisamment éduquée pour le comprendre ? C'est une époque, à moins que je dise une bêtise, et là je vous demande de me corriger si c'est le cas, où l'éducation passe essentiellement par la religion, et elle apporte là une forme de morale et une forme d'éducation, donc d'école, qui n'est pas encore assez répandue en l'état, aux gens. Et elle apporte donc cette chose-là, mais qui va être une barrière à l'émancipation intellectuelle. Est-ce que ma question est assez claire ?
Déborah ?
There are major problems with saying that religion is antithetical to intellectual development, because there would be no universities without the Catholic Church. And so see them as an obstacle if you will, but it's not really fair to, and I am some, you know, it's really not fair to sort of put any science fiction and fantasy in opposites, or religion and reason, or science and belief. This is actually where Robespierre gets into trouble, right? Is in trying to separate those things out. That is why, fundamentally, I believe, people then could not swallow Robespierre, was because, you know, it was too much of a good thing in a way.
Carole?
Je réfléchissais par rapport à ce qu'il disait sur l'éducation, et je pense que c'est compliqué de. Là, c'est un autre. Pour moi, c'est encore un autre débat en fait, qui est politique et qui est intéressant, mais qui est un autre débat. Après, bon, on parle des Lumières, donc forcément, ça peut se poser. Il y a l'idée de. Oui, effectivement, bien sûr, la liberté, le bonheur passe par l'éducation. Ça, oui, donc par l'éducation de tous. Après, quand bien même, mettons, dans un monde idéal, tout le monde serait éduqué, est-ce qu'un système qui imposerait un modèle de bonheur, c'est un peu l'idée de dire je vais trouver la solution pour vous rendre heureux, et puis après, je vais imposer ce qui va vous rendre heureux. Enfin, c'est toujours compliqué quand même. J'ai la solution pour vous, et puis j'impose une solution pour tous. Et il y a toujours quand même, malgré tout, à mon avis, d'un point de vue systémique, mais là c'est politique, hein, c'est autre chose, à mon avis un problème, mais c'est idéologique. On est plus sur des qu'est-ce qu'on pense être possible comme modèle de société qui va bien. La réponse est, je ne peux pas te dire une vérité universelle, je ne peux te donner que mon avis personnel là-dessus. Moi je suis sceptique sur un système qui propose un modèle de bonheur et qui risque de passer de « je propose » à « j'impose ». Oui. J'ai toujours peur de ce glissement, d'une proposition collective à « j'impose après, derrière ». Voilà.
Je crois que les Français de cette époque-là, et à l'époque donc de Robespierre, hein, dans ses premières années finalement, un tout petit peu avant justement la période de la Terreur, ce que Robespierre n'avait pas mesuré, c'est qu'en libérant finalement, enfin la révolution en libérant les citoyens, elle les avait libérés de l'Église, et puis elle avait également libéré les mœurs, parce que les mœurs vont commencer véritablement à évoluer à partir du moment où il n'y a plus finalement la chape de la religion et des valeurs donc religieuses qui vont peser sur eux. Et donc Robespierre a voulu leur imposer finalement un bonheur qui passait par, voyez, la chasteté, par l'exercice de la raison. Et ça, ça n'a absolument pas fonctionné parce que les Français étaient finalement, enfin les citoyens étaient dans une dynamique totalement inverse, puisque c'est également la Révolution qui va créer aussi le divorce. Vous voyez, donc on était dans une libéralisation des mœurs, et du coup, évidemment, ce type je dirais, de formalisme imposé, qui était donc cette idée, cette philosophie imposée, avec, en utilisant en plus les codes de la religion, ça n'a absolument pas fonctionné. Et donc après, Robespierre est passé évidemment par l'imposition donc, de la terreur. Hein, c'est ça qui.
Voilà. On pourrait imaginer un livre de science-fiction où il y aurait un ministère du bonheur. Et ça paraît un peu contradictoire, a priori, ironiquement, tu vois. Voilà.
Bien. Nous allons nous arrêter là parce que je vois le prompteur, Hugo, qui me fait signe. Donc, merci de votre attention et puis nous vous souhaitons donc une bonne continuation aux Utopiales.